êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec vous, Marc-Aurèle Barrez. Au sommaire de cette édition, l'armée iranienne prévient qu'elle ouvrira de nouveaux fronts en cas d'attaque américaine. Donald Trump parle d'une situation terrible après l'attaque hier contre une mosquée aux États-Unis. Les autorités parlent d'un crime de haine. À Damas, en Syrie, un mort dans une attaque à la voiture piégée. C'était près d'un bâtiment du ministère de la Défense. Et dans votre dossier du jour, nous reviendrons sur la visite prévue demain du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, au Maroc. Nous parlerons aussi de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, une situation inquiétante qui pourrait durer plusieurs mois. Enfin, vous entendrez Christophe Bouliérac, le porte-parole de l'UNICEF au Liban. Il alerte sur la détresse des enfants au pays du Cèdre. Nous le disions dans les titres, une situation terrible, ce sont les mots du président américain après l'attaque hier dans une mosquée en Californie. 3 personnes ont été tuées, les 2 suspects, des adolescents de 17 et 18 ans, se sont ensuite ôtés la vie. D'après les premiers éléments de l'enquête, les autorités parlent d'un crime de haine. Direction Damas, en Syrie, où un soldat a été tué et d'autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée. C'était près d'un bâtiment lié au ministère de la Défense. Les autorités disent avoir établi un périmètre de sécurité sur les lieux. Et regain de tension au Moyen-Orient, l'armée iranienne prévient qu'elle ouvrira de nouveaux fronts en cas d'attaque américaine. Cela alors que Donald Trump a déclaré qu'il avait renoncé à une attaque prévue aujourd'hui sur l'Iran. D'après le Qatar, les efforts diplomatiques entre Téhéran et Washington nécessitent plus de temps. Au Soudan maintenant, 28 morts dans une attaque de drone sur un marché. C'est ce qu'ont indiqué une source médicale et 3 témoins à l'AFP. C'était dans une localité du sud contrôlée par les forces paramilitaires. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré aujourd'hui qu'un procureur de la Cour pénale internationale avait demandé un mandat d'arrêt à son encontre. Il accuse l'autorité palestinienne d'être à l'origine de cette démarche. Pas de confirmation de la part du procureur. Il affirme que son bureau est dans l'impossibilité de commenter les spéculations. Et dans le reste de l'actualité, un ancien directeur d'une prison libyenne, celle de Mitiga, près de Tripoli, paraît aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Khaled Mohamed Ali El-Ishri est décrit par l'accusation comme un bourreau notoire. Il aurait violé, torturé et tué des détenus entre 2015 et 2020. En France, un chiffre, près de 16 500 étrangers irréguliers ont été enfermés dans des centres de rétention administrative en 2025. 2025, une des années les plus préoccupantes pour les droits des personnes étrangères privées de liberté. C'est ce que dit un rapport de plusieurs associations publié ce mardi. Elle s'inquiète notamment de l'allongement de la durée moyenne d'enfermement, 33 jours en 2025 contre 17 en 2020. Enfin, le ministre de l'Éducation a annoncé aujourd'hui des mesures concernant le baccalauréat. Durcissement des consignes sur l'orthographe, lutte renforcée contre la triche, mais aussi un âge minimum pour se présenter. En effet, cette année, la plus jeune personne à passer le bac a un peu moins de 10 ans. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci pour votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. Il sera l'invité de Grand Angle après le flash de 18h. Le porte-parole de l'UNICEF au Liban, Christophe Bouliérac, alerte sur la détresse des enfants au pays du Cèdre. Selon lui, ils sont près de 770 000 à subir une détresse accrue en raison de l'exposition répétée à la violence, aux pertes et aux déplacements. Un cri d'alarme de l'UNICEF, donc, cela malgré le cessez-le-feu conclu le 17 avril.
C'est un cessez-le-feu qui n'en a que le nom, hein. Un cessez-le-feu de façade, toujours très incertain, toujours extrêmement fragile. Certes, il n'y a plus de bombardements sur Beyrouth, hein. On se rappelle la journée notamment effroyable, hein, du 8 avril, où des dizaines d'enfants avaient été tués et blessés en quelques minutes. Mais les hostilités, les bombardements continuent au sud et à l'est du Liban, et tout ça participe d'une aggravation, hein, de la santé mentale, de la détresse psychologique que les enfants et prouvent ici, oui, on a estimé que 770 000 enfants souffrent de cette détresse. Vous savez, c'est le deuxième chapitre de violence. Le premier, c'était fin 2024. On avait eu le temps, fin 2024, juste après la violence, de faire une petite étude. Et à l'époque, on avait vu que une grande partie, 72 personnes, des personnes qui s'occupaient des enfants, notamment les parents, montraient que les enfants étaient anxieux ou nerveux, ou les 62% des enfants étaient déprimés ou tristes. On sait très bien aujourd'hui, dans ce deuxième chapitre de violence, donc depuis le 2 mars, que les choses ont empiré, et on estime que 770 000 enfants souffrent de cette détresse. En fait, c'est une estimation assez conservatrice, puisque le fait d'avoir perdu la normalité, d'avoir perdu sa maison, le fait d'avoir été exposé à des niveaux de stress et de violence, des niveaux sonores, des niveaux même olfactifs ou visuels, et le fait que la situation humanitaire ne s'améliore pas, les enfants qui étaient déplacés continuent de l'être.
Et le fait que leur mère, c'est ce que l'on entend, certains ont perdu leurs parents, beaucoup sont déplacés. Comment sont-ils pris en charge ?
Bah écoutez, vous avez toujours aujourd'hui des enfants déplacés parmi les 130 000 personnes qui sont dans l'un des 660 abris. Pour certains, la moitié de ces abris, je vous le rappelle, ce sont des écoles, hein, parce que c'est là où ils pouvaient trouver de l'eau et des toilettes. Mais vous avez aussi beaucoup plus de familles qui sont dans des communautés hautes, et puis vous avez aussi les enfants qui sont dans les villages, dans des zones, notamment au sud du Liban, des zones très difficilement accessibles. Ce que je veux vraiment rappeler, c'est que depuis un mois de cessez-le-feu, il y a 34 enfants qui ont été tués, il y a 141 enfants qui ont été blessés, ça ne s'arrête pas. Et depuis le 2 mars dernier, c'est carrément 211 enfants tués, 845 blessés, ça fait toujours environ 14 enfants tués ou blessés chaque jour. Ce sont des chiffres, mais nous, ce que nous voyons sur le terrain, ce sont des enfants très vulnérables, parce que plus cette situation dure, eh bien précisément, plus c'est dur pour eux.
C'était Christophe Boulirac, le porte-parole de l'UNICEF au Liban. Il sera l'invité de Grand Angle après le flash de 18h. Le ministre français des Affaires étrangères, attendu demain au Maroc, Jean-Noël Barrot s'entretiendra notamment avec son homologue Nasser Bourita. François-Xavier de Calonne.
Et oui, le ministre de la Justice, à peine rentré d'Algérie, voilà que le ministre des Affaires étrangères s'apprête à s'envoler vers le Maroc. Alors, les relations avec chacun de ces pays ne sont pas les mêmes, et l'objet de la visite à Rabat de l'autre du Quai d'Orsay est bien entendu différente de celui de Gérald Darmanin en Algérie. Il reste que deux ministres français se rendent ou se sont rendus à deux jours d'intervalle dans deux pays d'Afrique du Nord dont la coopération avec Paris est fondamentale. Le déplacement du garde des Sceaux à Alger actait un apaisement entre les deux pays, une baisse de tension amorcée ces derniers mois après la nomination de Laurent Nunez au ministère de l'Intérieur. Le garde des Sceaux a affirmé avoir obtenu des autorités algériennes la reprise de, dit notre coopération judiciaire. Il a aussi salué des échanges extrêmement forts avec le président algérien sur la question de Christophe Glaize, le journaliste français arrêté dans le cadre d'un reportage en mai 2024 en Kabylie et condamné à 7 ans de prison.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est lui attendu à Rabat dans un contexte de continuité du dialogue stratégique entre les deux nations.
Oui, Jean-Noël Barrot s'entretiendra avec son homologue marocain, Nasser Bourita, ce qui est plus que logique lors de ce type de visite. Les discussions entre les deux pays sont régulières et il y a de nombreuses convergences sur plusieurs dossiers régionaux. Un déplacement après la rencontre à Paris le 10 mars dernier entre Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot, c'était en marge du deuxième sommet mondial sur l'énergie nucléaire. Des discussions sur le renforcement des relations bilatérales, mais aussi sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les deux parties avaient alors affirmé l'importance du partenariat d'exception renforcé entre le Maroc et la France. Le communiqué commun avait aussi mis en avant les développements liés au dossier du Sahara, ce même dossier à l'origine des très fortes tensions avec l'Algérie. Et la boucle est ainsi bouclée, Marc Aurel.
Merci François-Xavier pour ces précisions. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur la progression de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Plus de 130 décès sont désormais recensés et l'OMS prévient cette flambée pourrait durer plusieurs mois. Les précisions de Nadia Bencher.
L'Organisation mondiale de la santé se dit profondément préoccupée par l'ampleur et la rapidité de l'épidémie d'Ebola qui progresse dans l'est de la République démocratique du Congo. L'OMS a déclenché dimanche une alerte sanitaire internationale, tandis que l'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique à l'échelle du continent. Selon les autorités congolaises, plus de 130 décès et plus de 500 cas suspects ont été recensés, mais Kinshasa précise que tous ces décès ne sont pas nécessairement liés au virus. L'inquiétude porte aussi sur la durée de cette flambée. La représentante de l'OMS en RDC avertit qu'elle ne sera probablement pas terminée dans 2 mois et rappelle qu'une précédente épidémie avait duré près de 2 ans. L'épicentre se situe en Ituri, dans le nord-est du pays, une région marquée par les violences armées et les déplacements de population. Le virus s'est déjà propagé au-delà de cette province avec des cas signalés à Butembo, à Goma, mais aussi en Ouganda où un cas et un décès ont été enregistrés chez 2 voyageurs venus de RDC. La souche en cause, appelée Budimbuyo, ne dispose ni de vaccin ni de traitement spécifique. L'OMS étudie désormais les options disponibles pour tenter d'endiguer la propagation.
C'était le compte rendu de Nadia Bencher. C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Alexandre Ward pour la réalisation. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.